Vous êtes sur RTL.
Un film RTL.
Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous espère en forme en ce samedi matin. Que vous soyez tranquillement installé chez vous, peut-être dans votre cuisine d'ailleurs, à préparer votre petit déjeuner. Que vous soyez sur la route, restez prudent surtout. Ou encore au travail, merci à vous d'être au rendez-vous entre 9h15 et 10h le samedi sur RTL. Et aujourd'hui dans Nous voilà bien, on a décidé de mettre tous nos œufs dans le même panier.
Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.
Et cette semaine, on teste un produit phare de notre alimentation. Les œufs sont-ils vraiment bons pour notre santé? Vous le découvrirez dans un instant. Comment bien choisir ces œufs et comment les conserver? On saura tout grâce à vous, Olivia Delaunay. Bonjour Olivia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes venue sans œufs, mais avec toutes vos connaissances justement.
Absolument.
Sur le sujet. Comment devenir des pros de la crêpe? Eh oui, c'est la chandeleur demain, atelier cuisine, un peu plus tard dans l'émission avec vous, Bertrand Larcher. Bonjour Bertrand Larcher.
Bonjour.
Merci d'être notre invité. Vous êtes mon nouveau meilleur copain parce que je ne sais toujours pas faire les crêpes. Donc, grâce à vous, justement, demain, je vais pouvoir exceller dans ma cuisine.
Je suis très content.
Merci à vous.
Quoi de plus sympa que neuf?
Quoi de plus sympa que neuf?
Qu'il neige, qu'il vente ou qu'il pleuve.
Qu'il neige, qu'il vente ou qu'il pleuve.
C'est le soleil qui frétille.
Alors bon, moi, j'en connais des œufs sympas, hein. Je connais des gens sympas aussi, mais en tout cas, petit hommage à Pierre Perret ce matin pour commencer l'émission. Laurence Plumet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, d'ouvrir le bal de nos conversations. Vous êtes médecin nutritionniste. On va parler donc des œufs, les œufs qui font partie des aliments de base de notre alimentation. Est-ce qu'il n'y a que des avantages nutritionnels aux œufs?
Oui, oui, oui.
Ah oui,
en dehors du fait d'être allergique à l'œuf, et dans ce cas-là, on n'en mange pas, mais pour ce qui concerne les qualités nutritionnelles de l'œuf, elles sont absolument exceptionnelles.
C'est vrai,
c'est un aliment très complet.
Je pensais qu'il fallait limiter à un moment donné notre consommation d'œufs.
Non, alors en fait, les gens s'auto-limitent la consommation d'œufs à cause du cholestérol.
Ouais.
Ah là 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 là, ça a plombé les œufs, mais pendant des années, jusqu'au moment où on a enfin découvert les secrets du métabolisme du cholestérol, et on s'est aperçu que le cholestérol apporté par les aliments a finalement très peu d'impact sur le taux de cholestérol sanguin.
D'accord.
Voilà, donc je ne veux pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est le foie de notre corps qui fabrique le cholestérol. C'est lui le responsable. Quand il marche bien, pas de problème. Quand il est un peu déréglé pour des raisons génétiques et autres, hop, on fabrique trop de mauvais cholestérol, ou quand on a quelques kilos en trop, bon bref, tout ceci favorise la montée du cholestérol. Mais c'est pas le cholestérol de l'œuf qui le fait monter. Donc ça, il doit être innocenté, et on pourrait manger des œufs tous les jours si on voulait.
Opération sauver les œufs.
Non,
je peux manger des œufs tous les jours.
Mais
on m'a dit qu'il faut en manger deux fois par semaine,
non,
pas
non,
plus.
Non, c'est fini ça, c'est fini.
Ah
c'est
bon
fini. Ah oui.
C'est
oui.
La
allez, c'est
aujourd'hui.
L'année, on ressuscite les œufs,
ouais.
Hein, on les redécouvre et beaucoup de gens aiment manger les œufs parce que ce sont des aliments formidables qu'on peut manger en salé, en sucré. Mm. Un petit œuf coq tout frais, c'est absolument délicieux. Une bonne omelette savoureuse, c'est très bien. Dans les crêpes, on verra que c'est absolument délicieux. Il faut redécouvrir les qualités. Et une portion, c'est deux œufs. Ça
okay.
équivaut à un petit steak.
D'accord. Alors justement, j'allais vous demander en termes de protéines, ça a autant de protéines que la viande ou le poisson?
Alors, un peu moins, puisque les œufs contiennent 12% de protéines, alors que viande et poisson en contiennent en moyenne entre 15 et 20%.
Okay.
Mais je dois dire qu'il n'y a pas que la quantité qui compte, il y a la qualité. Et alors, les protéines des œufs sont imbattables. Elles sont encore meilleures que celles de la viande et du poisson, parce qu'elles sont riches en ce qu'on appelle des acides aminés essentiels. Ce sont des composants qui nous sont utiles à nous pour refaire des tas de choses, nos propres protéines. Et plus une protéine alimentaire en est riche, ces acides aminés essentiels, il y en a 22, dont 8 essentiels, plus elle est de très bonne qualité nutritionnelle. Et devinez quoi, c'est le cas des œufs. Voilà, donc c'est la protéine parfaite, qui n'a besoin d'aucun végétal pour être complémentée, elle se suffit à elle toute seule. Donc c'est absolument parfait sur le plan protéique.
On entend dire que le blanc est meilleur que le jaune pour
non,
la
non.
santé.
Non, non, parce que
en fait on n'entend que des,
oh,
que des bêtises sur les œufs.
Ah ben, c'est pas nouveau, hein, dans le domaine de la nutrition il y a plein d'erreurs. C'est
d'accord.
ça qui est génial dans mon métier, c'est
okay.
que je passe mon temps justement à corriger ces erreurs. Alors, dans le blanc de l'œuf, il y a des protéines, dans le jaune il y a aussi des protéines, et dans chacun de ces deux composants, il y a également d'autres choses. Il y a des lipides, dont le cholestérol dans le jaune, et il y a des vitamines, du fer, de l'iode, du sélénium, à la fois dans le blanc mais aussi dans le jaune. Et plein de vitamines.
D'un point de vue calorique, vous savez, il y en a certains qui
oui.
disent qu'il vaut mieux une omelette blanche plutôt qu'une omelette avec des œufs entiers. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Oh mon Dieu, que c'est triste de manger une omelette avec que du blanc d'œuf.
Ah bah moi ça, je suis d'accord, ça me déprime.
C'est un truc de sportif de haut niveau où il se tape 6 œufs le matin pour les protéines.
6 blancs d'œufs.
Oui, 6 blancs d'œufs le matin, parce qu'ils ne veulent pas justement manger les lipides du jaune, mais en même temps, ils se privent de beaucoup d'autres éléments nutritionnels. Eux, la seule chose qui les intéresse sont les protéines. C'est pour ça qu'ils carburent sur le blanc d'œuf. Mais honnêtement, c'est une petite niche et ça n'a rien à faire avec notre consommation quotidienne.
C'est pas ultra calorique, les œufs ?
Pas du tout. Alors, deux œufs, c'est 150 calories, alors que 100 grammes de viande, on frôle les 200, vous voyez. Donc, deux œufs, 150 calories. C'est pour ça, d'ailleurs, que les œufs sont très présents dans le régime amaigrissant. Surtout d'ailleurs les œufs durs qui sont extrêmement rassasiants. Plus un aliment est riche en protéines, et c'est le cas de l'œuf, plus il est rassasiant.
Alors j'allais justement vous demander, œuf cuit, œuf cru, il y a une véritable différence nutritionnelle et calorique ?
Œuf cru on oublie, hein, parce que je ne vois pas d'ailleurs qui aurait envie de manger de l'œuf cru. Au demeurant...
Il y a des gens qui gobent des œufs. Hein.
Oui, mais
moi, quand j'étais gamine à la campagne, pardon, mais on gobait les œufs. Vous avez connu ça, vous, Bertrand Larcher ?
Oui, sûr,
alors
fait,
ça,
oui.
ça
en disant
se faisait...
que c'était hyper bon pour la santé.
Oui.
Olivia, vous avez entendu parler de ça ?
Absolument,
ouais,
oui.
C'est ça.
Mais ça, c'était un truc de nos grands-parents.
Oui.
Et c'est complètement...
Les œufs de canard aussi.
C'est pas du tout bon pour la
les
santé.
Les œufs de canard, oui, on va y revenir.
Ouais, ouais. Parce que, en fait, la protéine de l'œuf, elle a besoin d'être cuite. Si elle est mangée crue, elle est très indigeste. Ah. Alors, c'est pas mauvais pour la santé, mais ça vous restera un peu sur l'estomac.
D'accord, ok. Est-ce qu'ils gardent les mêmes propriétés, les œufs, en fonction de la façon dont on les cuisine ? Par exemple, dans les crêpes de Bertrand Larcher, dans les œufs brouillés du matin, l'œuf cocotte, l'œuf au plat, l'œuf à la coque, est-ce qu'ils ont les mêmes propriétés ou pas ?
Alors, tout dépend de quoi on parle. Si on parle des protéines, des lipides, du fer, de l'iode, du sélénium, il n'y a aucun problème. De toute façon, ça n'est jamais impacté par la température, par la cuisson.
Okay.
En revanche, si on parle des vitamines, les œufs sont extraordinairement riches en vitamines, puisque sur les 13 vitamines dont nous avons besoin, l'œuf en contient 9. Vous vous rendez compte ? 9. 9 vitamines sur les 13. Et en des teneurs rudement importantes.
Ouais.
Ça commence à 25% du besoin quotidien fourni par deux œufs, jusqu'à 100% du besoin quotidien en vitamine B12, rien qu'avec deux œufs. Alors ça, je ne connais aucun aliment qui, à partir du moment où il est, là, en l'occurrence, pour l'œuf pondu.
Mais vous travaillez pour la Ligue de l'œuf ou quoi ?
Mais pas du tout. Vous me connaissez, je suis une passionnée.
Ouais. Il n'y a aucun aliment, je vous ai interrompu.
Oui, vraiment, c'est parfait parce que quand la poule pond son œuf, son œuf, on peut le consommer jusqu'à un mois, voire même un petit peu plus après la ponte. Eh bien, pendant ce mois, tous ces éléments nutritionnels restent dans ce petit univers-là qui est stérile et qui est protégé. Et tout y reste dans les mêmes teneurs originelles. C'est fantastique. Alors, bien sûr, après, on arrive, crac, on casse l'œuf, ou alors on le met dans l'eau bouillante. Et tout ça. Alors, les seuls éléments qui vont en souffrir un petit peu, ce sont nos vitamines. Ça, on sait qu'elles sont thermosensibles. Alors, je rassure, il n'y a finalement que...
On va vous laisser le studio, hein, vous allez vous adresser à nos auditeurs.
Ouais. Il n'y a que certaines petites vitamines qui vont être impactées à raison de 10 à 20% de moins dans les œufs durs, puisque vous savez qu'on applique la règle 10, 9, 6. Bon, ce sont ceux qu'on va cuire le plus, hein, les œufs durs, mais la coquille est là. Elle protège l'intérieur et donc finalement nos vitamines elles sont préservées. Donc qu'on les mange dures ou coques, tout juste cuits, allez, on fait le plein de vitamines, de fer, de protéines excellentes et de bons lipides.
Bertrand Larcher, vous n'en avez pas marre des œufs, vous, parce que vous êtes spécialisé dans la crêpe, donc vous devez en voir passer.
C'est un ingrédient indispensable justement dans nos cuisines. Alors nous on utilise seulement des œufs donc de poules élevées en plein air, et biologiques.
Ouais.
Je pense qu'ils ont des qualités nutritives meilleures que les œufs
de batterie.
Ouais. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite partager avec nos clients. Et une simple galette avec un œuf, c'est vraiment très bon, avec bien sûr un morceau de beurre de micelle.
Oui, mais vous, quand vous les voyez les œufs, vous n'en avez pas ras-le-bol ?
Ah non, nous on aime les œufs.
D'accord, non, mais parce que je me dis, à force de fréquenter les œufs, on finit peut-être par en avoir marre. Vous parliez des œufs de canard.
Oui, les œufs de canard, parce que moi j'ai grandi à la ferme, mais de temps en temps, mon papa mangeait des œufs de canard.
Moi aussi, ouais. Et c'était différent pour vous ?
J'aimais pas trop, c'était très fort.
Ouais.
Je préfère un bon œuf de poule.
Alors, parce qu'on parle de l'œuf aujourd'hui, on parle de l'œuf de poule, effectivement, mais on va revenir dans un instant avec vous, Laurence. On va parler des œufs de caille, des œufs d'oie, des œufs de canne. Et puis ensuite, on verra comment les choisir, ces fameux œufs, avec vous, Olivia, jusqu'aux recettes, évidemment, délicieuses de Bertrand Larcher. On se retrouve tout de suite pour la suite de Nous Voilà Bien.
Nous Voilà Bien sur RTL, avec Flavie Flamand.
Tout, tout, tout.
vous saurez tout sur les œufs à la fin de cette émission grâce à Laurence Plumet qu'on va retrouver dans un instant. Elle va poursuivre justement, son combat pour réhabiliter les œufs dans notre alimentation. Elle nous donne plein de conseils, elle nous parle des qualités nutritives de l'œuf. Comment bien les choisir ces œufs, parce que c'est vrai, on est un petit peu paumé, moi je trouve, dans les codes sur les coquilles. On verra ça avec Olivia Delaunay. Et puis après, oh là là, chouette, on va manger des crêpes avec Bertrand Larcher.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Alors je ne sais pas quand était le temps des œufs au plat. Merci Alexandra Polaxic qui s'occupe de l'habillage musical de cette émission. Joe Dassin avec nous ce matin sur RTL pour parler des œufs. Alors on aura déjà compris que leur cuisson ne change pas grand chose avec vous, Laurence Plumet. Les œufs au plat, les œufs cocottes, les œufs miroirs. Les œufs brouillés, les œufs mollets. Qu'est-ce qu'on en fait des choses avec des œufs? C'est quand même dingue.
C'est pour ça qu'on s'en lasse jamais.
Ouais. Et des bonnes crêpes. Mais on peut faire des crêpes avec tous les œufs ou pas?
Ah oui.
Vous avez essayé, Bertrand Larcher? Alors, vous nous parliez des œufs de canne il y a un instant que votre père mangeait.
Non, je n'ai pas, parce que je n'ai pas de très bons souvenirs des œufs de canne. Donc je préfère, va rester assez classique.
D'accord, vous êtes sur l'œuf de poule.
Biologique, bonne qualité.
On va revenir sur les œufs de bonne qualité, justement. Vous pourrez intervenir sur la question. Œufs de canne, œufs de caille, œufs d'oie, œufs d'autruche. Mmh. Il y a plein d'œufs différents. On ne parle que des œufs de poule, alors qu'en fait, on peut tous les consommer.
Oui, finalement, les qualités nutritionnelles des œufs diffèrent assez peu, finalement, de l'animal qui les pond, hein, que ce soit canne, autruche et compagnie. Donc, on va retrouver les mêmes profils nutritionnels à quelques petites variantes près. D'abord, concernant l'alimentation, quand l'animal est nourri avec des graines de lin, qui sont très riches en oméga 3, à la rigueur, c'est le seul contexte qui puisse enrichir ces œufs-là en oméga 3.
Voilà. Ok.
Voilà. Pour le reste.
Donc ça tient à l'alimentation, quoi.
Oui, juste pour les oméga 3.
D'accord.
Ensuite, il y a également le bêta-carotène, car tout le monde sait qu'il y a des œufs qui ont des jaunes, plus ou moins jaunes.
C'est vrai.
Et plus un jaune est jaune, plus il est riche en bêta-carotène, puisque c'est le bêta-carotène qui est le pigment, finalement, du jaune d'œuf. Pour le reste, protéines, fer, iode, phosphore et les vitamines dont j'ai parlé, on retrouve les mêmes profils.
Un œuf cale jaune qui fait un peu la tronche et un œuf cale jaune hyper, hyper pétant, en fait, ça n'est qu'une histoire de bêta-carotène, mais pas une histoire de qualité de l'œuf.
Non.
Et c'est le hasard de Dame Nature, ça.
Oui, et puis la variété de poules aussi. Hein,
ah,
parce que chaque poule a son œuf, attention. Hein,
d'accord,
hein,
ok.
Déjà, ça se voit sur la coquille. Hein, on pourrait faire des collections de coquilles.
Oui, c'est vrai, il y a plein de couleurs
différentes. Il y en a des tachetées, il y a des livres magnifiques sur les variétés de poules. On a une richesse en France de variétés de poules extraordinaires. Mais une fois qu'on a cassé la coquille et qu'on se régale de l'œuf, il faut dire que globalement, on mange toujours les mêmes œufs sur le plan nutritionnel.
Il y a des œufs plus gros que les autres, évidemment, entre un œuf de caille et un œuf d'autruche.
Ah, ben ça,
on
ne
va pas nourrir le même nombre de personnes.
C'est sûr. Alors, la portion, elle est de 100 grammes.
D'accord.
Alors, un œuf de poule, en moyenne, fait 50 grammes, donc deux œufs. Maintenant, quand vous avez un œuf très, très gros, un œuf d'autruche, vous pouvez nourrir, je ne sais pas, moi, 10 personnes. Vous pouvez faire des crêpes pour 10 personnes.
C'est vachement pratique, ça, les œufs d'autruche. C'est économique pour vous dans vos crêperies, Bertrand Larcher.
Sérieusement.
Et je vous voyais réagir quand on parlait justement des poules il y a un instant. Vous en avez, vous, des poules?
Oui, personnellement.
Éleveur de championne?
On a 5 poules.
Ouais.
Elles pondent bien.
Et elles font des œufs différents. Je vous voyais réagir à ce que disait Laurence Plumet.
Ah oui, alors moi, je suis passionné, j'adore les poules. Et chez nous, on a les coucous de Rennes.
Une race
de poules très connue. Mais moi, personnellement, je vais de temps en temps au marché, voir des poules avec mes enfants pour essayer de trouver des poules différentes.
Et en rencontre avec les poules.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
On continue donc notre enquête sur les œufs avec vous, Olivia Delaunay. Vous êtes rédactrice en chef du pôle cuisine au magazine Maxi. Merci d'être avec nous. Alors bon, on a bien compris que les œufs sont bons pour la santé. S'il faut réhabiliter les œufs et qu'ils réinvestissent, je dirais, notre alimentation et notre cuisine. Mais en revanche, il faut trouver de bons œufs aussi. Alors est-ce qu'il y a vraiment une différence entre des œufs de batterie et des œufs biologiques? La vérité,
malheureusement, non, pas
c'est
tellement.
C'est flippant, ça.
Il n'y a pas tellement de différence. Donc après, c'est un choix que fait le consommateur. Et donc, il faut qu'il soit informé pour comment bien choisir son œuf.
Ouais.
Mais malheureusement, un œuf est un œuf. Donc à moins d'avoir un fermier à côté qui nous donne les œufs de ses poules qui sont nourris avec son grain, il n'y a pas tellement de différence.
Là, vous parlez de qualité nutritive, oui. En termes de goût, pardon. Mais moi, je vois une vraie différence entre des œufs que je vais
vais manger à la campagne et qui viennent de la ferme d'à côté, ben voilà. et des œufs de batterie qu'on pourrait trouver dans un supermarché.
Absolument, mais il y a aussi une grande part subjective. Donc il y a on a la part du fermier qui nous a donné ses œufs ou chez qui on va chercher son œuf. Donc malheureusement, c'est pas si franc que ça. Donc il y a certains œufs qui ont l'air bien meilleurs et ils le sont certainement, mais aussi parce que les poules sont mieux élevées dans le bien-être animal et elles sont mieux nourries également. Donc c'est ça qui est important en fait.
Enfin, moi je me souviens quand même, j'ai été élevée à la campagne dans un haras, dans une ferme. Je me souviens que les œufs qu'on avait le matin au petit-déj, pardon, mais avaient un goût. Je veux pas faire vieux con, mais avaient un goût qu'on ne retrouve plus forcément aujourd'hui. Et ça, c'est pas de l'imagination, quoi.
Non, mais bien sûr, moi aussi, je passe mes vacances à la campagne, dans l'Aveyron, et j'ai un voisin qui me.
Vous êtes d'accord aussi.
Qui me sert les œufs de ses poules.
C'est pas simplement parce que c'est campagnard que c'est
non,
meilleur.
Mais ça joue quand même.
D'accord.
Ça joue quand même, voilà.
Ok.
Donc voilà, il faut savoir que malheureusement, il n'y a pas tant de différence que ça au niveau saveur.
D'accord. Alors au niveau saveur, très bien. Qualité nutritionnelle, bah voilà, on l'aura appris aussi. Les informations à regarder sur une boîte. Quand je vais choisir des œufs, qu'est-ce que je dois regarder pour être quand même en phase avec mes convictions personnelles ? Voilà.
Alors, en fait, sur la boîte, on trouve différentes informations qui sont la date limite recommandée
d'accord,
de consommation, les indications de calibre de l'œuf, la taille S, XL en fonction, gros ou petit,
comme
moyen,
les jeans, quoi.
Voilà. et également, il y aura des mentions comme si les œufs sont frais, il y aura un A qui apparaît sur l'emballage. Et il y a évidemment les notions de bio, par exemple, ou élevage en plein air. Voilà. Mais le plus important, en fait, ne se trouve pas sur l'emballage, mais sur la coquille de l'œuf elle-même. Et là, il faut regarder, chaque œuf est tatoué. Donc, c'est le tatouage de l'œuf qui va nous indiquer. Il y a un premier chiffre. Et c'est là où, on va dire, tout se joue dans le choix de ce qu'on veut. Le zéro représente les œufs bio. Voilà, donc si
donc,
on veut manger du bio, on
œufs,
achète un œuf tatoué zéro en premier. Le 1, c'est un élevage en plein air. Le 2, c'est un élevage fermé sans parcours extérieur. Et le 3, là, c'est un élevage en cage. Voilà.
Donc en fait, pour nos auditeurs, on évite quand même, à un moment donné, le 2 et le 3, quoi. Hein
ah ouais.
Non, c'est pas terrible, quoi. C'est-à-dire que là, on est en train d'alimenter une filière, un truc pas...
dont on n'a pas envie.
Voilà,
clairement,
on est bien d'accord qu'on n'a pas envie
de voir. On achète 0 ou 1 et on s'arrête là. Voilà. Ensuite, pour des raisons de qualité, on va regarder d'où proviennent les œufs, donc où ont été pondus les œufs. Et donc là, ce sont les deux lettres qui apparaissent après le premier chiffre sur le tatouage. Et donc, on va regarder si elles proviennent de France. Et donc, on trouvera FR indiqué sur cette.
C'est un peu comme les voitures, quoi.
Voilà, absolument.
D'accord.
C'est le numéro d'immatriculation.
D'accord. Donc, ça veut dire que idéalement aujourd'hui, on va prendre du 0FR.
Voilà.
Est-ce qu'il est des pays qui fournissent vraiment des œufs dont on pourrait se dire, si Jean-Pierre Coff était toujours là, c'est de la merde.
Je pense que oui.
Oui. Lesquels? Bertrand Larcher, vous avez une idée là-dessus?
Moi, je pense.
Nous,
que
on parle des œufs des pays de l'Est.
Voilà, c'est ça.
Europe de l'Est, Pologne, oui. Voilà, on parle bien de ces œufs-là qui sont des œufs dont on dit qu'ils ne sont pas forcément bons pour la santé, en tout cas c'est ce que j'ai entendu dire, qu'ils n'avaient pas les mêmes qualités nutritives et surtout qu'ils étaient fournis dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Donc ça, ces œufs-là, quand même, il faut savoir s'en méfier et donc ce que vous nous dites, c'est que pour nos auditeurs, il faut regarder les lettres qui sont apposées derrière le premier chiffre sur le tatouage de l'œuf.
FR.
Très bien. Donc, il vaut mieux FR que PL, comme
par exemple,
Pologne.
Par
on
exemple.
L'aura compris. OK. Les enseignes aussi proposent parfois des œufs un petit peu différents. Et puis, il y a même des œufs bio. Moi, j'adore. Vous savez, les œufs de vieille poule. C'est Sébastien Petit-Domange qui nous a fait découvrir ça. Ce sont des œufs bio.
C'est une nouvelle marque qui a été créée, qui s'appelle Pool House.
Voilà.
Voilà. Et qui affiche sur ses emballages l'œuf qui ne tue pas la poule.
Exactement.
Voilà. Donc, ça, c'est une démarche. Les producteurs qui s'occupent des poules s'engagent à nourrir, loger les poules jusqu'à leur mort naturelle. Ce qui n'est pas le cas dans les productions d'œufs classiques.
Voilà, c'est ce que j'appelle moi les œufs de vieille poule, mais voilà.
Le label Bleu Blanqueur a un cahier des charges, je pense, qui doit être certainement le même. Que...
Alors là, je sais que Pool House va plus loin, c'est-à-dire qu'il sélectionne les poules, les femelles, dans la coquille, c'est-à-dire qu'on ne tue plus les poussins mâles comme c'est affreusement, ça arrive.
Oui, les poussins sont broyés. Mmh.
Voilà. Donc les poussins mâles sont éliminés dans la coquille, donc et donc les poules naissent et donc sont élevées. Alors évidemment, ça a un coût. C'est qui est répertorié sur le prix de l'œuf. C'est un
Elles
peu plus cher,
chères,
mais les producteurs sont aussi mieux payés. Et là, le consommateur sait ce qu'il achète.
Voilà, et ça, donc, c'est vertueux. On se retrouve tout de suite. On va poursuivre notre conversation. Comment conserver les œufs? Parce qu'on nous dit au frais, pas au frais, température ambiante. Bon, voilà. Et quelle est leur durée de conservation? Parce que Laurence, vous nous parliez tout à l'heure des œufs qu'on peut garder un mois. Voilà. Et de tous les petits trucs pour savoir s'ils sont encore frais. Bref, on se retrouve tout de suite sur RTL avant les recettes de Bertrand Larcher. On est ensemble sur RTL avec Bertrand Larcher, artisan crêpier. Vous pouvez retrouver ses crêperies Braise Café à Saint-Malo, à Cancale, à Tokyo, à Kyoto. Bon, on va aller déjà en Bretagne, c'est super et en plus c'est délicieux. Vous allez nous donner des recettes, hein, Bertrand Larcher, de crêpes puisque c'est la Chandeleur demain. Laurence Plumet nous a expliqué que les œufs devaient absolument réinvestir notre alimentation. Et puis Olivia Delaunay, avec vous justement, on poursuit notre enquête sur ces fameux œufs.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Omelette, omelette. Aux tomates et aux champignons.
Voilà, on embrasse les nuls, hein, qui, bien évidemment, nous écoutent comme tous les samedis matins. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Laurence Plumet? Vous m'avez dit, il y a un instant, antenne, il ne faut pas oublier de parler de Madame le professeur.
Ouais. À partir de quel âge on peut commencer à manger des œufs?
Oui, alors, bien, bon, allons-y, avant de poursuivre justement la qualité des œufs.
Très rapidement, ça commence dès la diversification alimentaire, donc à 6 mois, 6-7 mois, pour commencer à introduire un petit peu d'œufs, du jaune, du blanc, écrasé, un petit peu de cuillère à café. Ensuite, c'est... La portion, c'est un œuf par jour à l'âge de 1 an. Ensuite, hop, les années avancent. À l'âge de 5 ans, ça sera 1,5. Et à l'âge de 10 ans, alimentation de l'adulte, la portion, c'est 2 œufs par jour. Et ensuite, toute la vie, la portion, 2 œufs par jour. Et chez les personnes âgées, je parle de la portion. Et ensuite, chez des personnes âgées, très important de manger des œufs.
Ah ouais. Très bien. Le message est passé. Bertrand Larcher, ce sera pendant quelques années quand vous serez vieux. Comment je conserve mes œufs, Olivia Delaunay?
Écoutez, aujourd'hui, tout simplement dans les alvéoles qui sont dans nos réfrigérateurs. Voilà.
Ah bah d'accord. Bon, alors, moi, on m'a toujours dit qu'il fallait les sortir du frigo.
Alors, oui, à la campagne, à l'époque, avant, dans le temps, à la campagne encore aujourd'hui, on les conserve à l'abri de la lumière, protégés sous de la cendre, du papier. Aujourd'hui, au réfrigérateur, c'est parfait. La seule chose qu'il faut faire, c'est que les alvéoles, ces petits compartiments dans lesquels on glisse nos œufs, doivent être nettoyés régulièrement. Par contre, on ne lave pas les œufs avant de les placer dans le réfrigérateur.
Pourquoi ?
Parce que les coquilles ont une protection naturelle antimicrobienne et le lavage retire cette protection.
Alors, ça veut dire aussi qu'un œuf légèrement fêlé, mais très légèrement fêlé en surface, n'est plus un bon œuf ?
On le jette.
D'accord, on le jette directement. Leur durée de conservation, est-ce qu'au frigo, justement, on peut les conserver plus longtemps ?
En moyenne, un œuf se conserve environ un mois et demi. Maintenant, les œufs qu'on achète en supermarché ont une date de limite recommandée de 28 jours.
Ok, voilà. D'accord. Un œuf extra frais ?
Extra frais, c'est J plus, c'est-à-dire jour de ponte plus 9 jours.
D'accord.
Après la ponte.
D'ailleurs, ils sont indiqués sur les boîtes, on voit extra frais jusqu'à telle date.
Voilà.
Un œuf est frais jusqu'à
14 jours après la ponte.
D'accord. Donc dans ces cas-là, on peut pas forcément les consommer de la même façon que les œufs extra frais.
Non, alors le cuir, mais il faut pas le consommer, il faut éviter la mayonnaise là où l'œuf est vraiment cru.
D'accord.
Même éviter l'œuf poché voilà.
D'accord.
Donc il vaut mieux les cuire un peu plus en omelette, ça marche bien par exemple.
Et donc quand on passe les fameux 14 jours et qu'on n'est plus avec un œuf dit frais, qu'est-ce qu'on peut en faire ?
On le cuit. Donc
d'accord.
On fait un œuf dur, on le met dans des pâtisseries, ça il n'y a aucun problème, il sera cuit, donc on n'a aucun souci.
Alors si j'ai bien compris en vous écoutant, un œuf est extra frais jusqu'à J plus 9, J étant le jour de ponte. Ça veut dire que là, vous pouvez le consommer comme vous voulez, notamment à la coque pochée ou en mayonnaise. Un œuf est frais à J plus 14, donc là, vous pouvez en faire des plats, des brouillades, le déguster. En revanche, au-delà, à J plus 21 et J plus 28, il faut le consommer dur ou en préparation cuite, comme les pâtisseries. Comment on sait si un œuf est encore frais ?
Alors, si on a un doute, on prend un récipient d'eau froide, on plonge notre œuf dedans. S'il tombe dans le fond, c'est qu'il est frais. donc pas de problème. S'il reste à naviguer entre deux eaux, on le consomme, mais plutôt dur et rapidement, on ne traîne pas. Et s'il flotte, on le prend et on le met dans la poubelle.
Très bien, merci pour toutes ces informations. Bah maintenant, il ne nous reste plus qu'à cuisiner.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Qu'est-ce que c'est que la crêpe gigi?
Eh bien, la crêpe gigi, c'est une fine couche de sarrasin saisie dessus-dessous et parsemée de pétales de rose tiède. C'est délicieux.
Ah oui, certainement. Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière.
Bon, on vous l'a jamais faite celle-là, j'imagine, Bertrand Larcher. Hein, voilà. Les bronzés font du ski, la crêpe de Gigi. Ouais. C'est ça qui vous a donné envie de devenir artisan crêpier?
Oui, peut-être. Ouais. Certainement.
D'accord. Bon, en tout cas, vous n'êtes pas nul parce que vous avez des crêpes un peu partout jusqu'au Japon. Hein. Vous êtes fondateur également et gérant de l'Atelier de la Crêpe. Vous sortez un livre, Atelier de la Crêpe, chez Hachette Cuisine. Donc, normalement, avec un homme comme vous, on ne devrait pas planter sa chandeleur.
Non, je pense que voilà, je suis passionné depuis très jeune.
Mais parce que vous êtes né en Bretagne, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit?
Oui, j'ai grandi à la ferme. Chez nous, en Bretagne, là, on a une vraie culture sarrasin.
Ouais.
On mange donc cette spécialité toutes les semaines à la maison. Et effectivement, après mes études à l'école hôtelière, je n'avais pas imaginé non plus qu'un jour je choisirais ce métier.
Mmh. Voilà, donc, et qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce qui vous est arrivé?
C'est une histoire de cœur. J'ai rencontré mon épouse japonaise en Suisse lorsque je travaillais donc, dans un restaurant de luxe. Et je l'ai suivi. Nous sommes allés vivre à Tokyo. Et lorsque j'ai analysé un peu le marché de la restauration française, il n'y avait pas de crêperie bretonne. Donc j'ai eu très envie de partager ma culture bretonne et de présenter cette cuisine qui est très conviviale. On a la chance et le privilège d'avoir des clients de tout âge, de tous niveaux sociaux. Et là, je suis très content d'exercer ce métier.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, la crêpe peut réunir tout le monde.
Tout à fait.
Voilà,
c'est ça. On crée un lieu social et c'est important pour moi.
Si on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce que c'est la chandeleur demain. Vous connaissez l'histoire de la chandeleur?
Oui, enfin, déjà, pour moi, personnellement, ça me rappelle des souvenirs d'enfance à la ferme, hein, puisque c'était une fête où on invitait nos voisins, notre famille. Et beaucoup de paysans étaient autrefois très superstitieux et donc on aimait faire sauter les crêpes de la main droite avec une pièce d'argent dans la main gauche et voilà, ouais. On espérait avoir de très bonnes récoltes. Enfin, ce sont des souvenirs d'enfance et bien sûr, ça m'a toujours marqué.
D'accord. Ça veut dire que là, demain, ça va cartonner dans les crêperies, quoi.
Oui, c'est notre fête. C'est merveilleux.
C'est la fête du crêpier.
Et tous les ans, on pense à nous. Donc
voilà. Bah oui, exactement. Une fois par an, on pense encore plus à nous. C'est quoi la différence entre une crêpe et une galette, justement?
Alors, chez nous, on a une culture galette parce que historiquement, en Bretagne, ouais. on cultivait uniquement le sarrasin. Donc, c'est vraiment, on a une farine qui est exceptionnelle, hein, d'une saveur, on a un produit d'exception qui est aussi très très bon sur le plan nutritionnel, sans gluten. Alors une galette est beaucoup plus épaisse, une crêpe de froment c'est beaucoup plus fin. Voilà, donc on cultive aujourd'hui aussi bien sûr en Bretagne du froment, du blé tendre. Mais moi, personnellement, je préfère la galette.
En fait, moi, je fais des galettes de froment parce que quand je vous écoute, comme je n'arrive pas à faire une crêpe simple, une crêpe fine en plus, je pense que je fais de la galette de froment, en fait, parce que c'est plus facile à faire, la galette, que la crêpe, non?
Alors non, la galette, techniquement, c'est plus difficile. Alors, il existe effectivement des recettes où on ajoute des œufs.
Ouais.
Dans la galette, et
ouais.
c'est beaucoup plus facile à tourner et puis à
bon,
cuisiner.
Vous allez nous donner des recettes de toute façon et vous allez nous expliquer tout ça. Les farines, elles ont leur importance dans la qualité de la galette. C'est quoi
très,
la différence?
Très
là, vous nous avez parlé de froment et de sarrasin.
Alors, on a la chance d'avoir encore beaucoup de meuniers en Bretagne. On a à peu près 400 moulins. Ces moulins, on travaille une farine artisanale qui est moulue à la pierre. On apporte beaucoup d'importance à ces farines. On va dire, ce sont des farines vivantes, c'est-à-dire qu'on a une farine qui est vraiment semi-complète, pas très blanche en ce qui concerne le froment. Et le sarrasin, on travaille 100% sarrasin bio. Alors là, on a vraiment une farine exceptionnelle.
Alors, est-ce que les qualités nutritives sont différentes? On va en parler avec vous dans un instant, hein, Laurence Plumet, parce qu'on nous parle aussi de galettes de riz, galettes de châtaigne. Enfin bon, on va revenir là-dessus. Et puis, vous allez nous expliquer comment éviter les grumeaux. Moi, j'ai entendu dire qu'il fallait mettre de la bière dans la galette. Donc ça m'a parlé. C'est une question que je vais vous poser. Et puis, vous allez nous donner des recettes. Voilà, on saura quoi faire cet après-midi. À tout de suite sur RTL.
Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Bon, alors on parle des œufs, d'accord. On parle des crêpes, là je commence à avoir faim. Bertrand Larcher, vous nous donnez envie de manger des crêpes et vous allez nous donner des recettes.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Allez, reviens.
Alors
Alors c'est Olivia Ruiz hein, qui croit toujours que la crêpe aux champignons est une façon de récupérer un amoureux qui disparaît. Mais enfin bon, écoutez, en même temps, on peut essayer tout ce qu'on veut. Hein. Ça réunit, le disiez-vous, il y a un instant, Bertrand Larcher, pas que les amoureux, les enfants adorent les crêpes, les plus grands adorent les crêpes, les personnes âgées adorent les crêpes. Bref, on a vraiment le sentiment que la crêpe, c'est le repas économique, agréable, gourmand par excellence. On peut en faire des sucrés, des salés. Vous êtes venu avec des recettes que vous nous donnerez dans un instant. Mais auparavant, on a bien compris aussi, Bertrand Larcher, que les farines étaient importantes. Vous êtes entre le sarrasin et le froment, en fonction de ce que vous voulez faire, des galettes ou des crêpes. On parle aussi de la châtaigne, farine de châtaigne, farine de riz. Je me tourne vers vous, Laurence Plumet, vous êtes nutritionniste. Est-ce qu'il y a une véritable différence nutritionnelle dans ce cas-là?
Sur le plan calorique, teneur en protéines, c'est à peu près pareil. La seule chose qui diffère entre, par exemple, une farine de blé et une farine de châtaigne ou de sarrasin, c'est l'absence ou la présence de gluten. Oui. Et il y a des gens pour lesquels ça compte, parce qu'il y a quand même des gens qui sont sensibles au gluten, qui auraient bien envie de se régaler de crêpes et qui ne le peuvent pas. Et qui donc vont s'orienter vers des galettes de sarrasin ou alors des crêpes à la farine de châtaigne ou à la farine de riz. Voilà.
Hein, sur le goût est vraiment différent.
Ah, le goût est différent. Et présence ou pas de gluten. Pour le reste, teneur en protéines, teneur en vitamines, oligo-éléments, fibres. Évidemment, plus on sera sur des farines complètes, plus il y aura de fibres et aussi de vitamines du groupe B, sans que ce soit extraordinaire. Mmh. Mais c'est quand même un petit plus.
D'accord. Voilà. Vous parliez de calories. Bon, alors moi quand même, ce qui me freine parfois, hein, je suis vraiment désolée Bertrand Larcher, mais c'est l'idée de manger des crêpes et de prendre trop de poids parce que c'est tellement bon qu'on y va franco de porc. En fait, c'est pas la galette ou la crêpe qui est calorique, c'est ce qu'on met dedans. On est bien d'accord.
Exactement. La pâte à crêpes n'est pas très calorique. Vous avez tout à fait raison de dire, c'est ce qu'on met
quand
dedans.
Les nappes de chocolat avec des bananes,
voilà,
des pommes,
voilà.
Et tous ces trucs-là. Je pense qu'on peut vraiment manger beaucoup de galettes, plusieurs galettes, et c'est vraiment très léger.
Parce que c'est comme du pain finalement, parce que c'est de la farine.
Tout à fait. Ah,
essentiellement, voilà, c'est comme manger un peu de pain.
C'est à consommer normalement, quoi. On est bien d'accord. Ok, pas d'excès non plus, quoi. Bon, ok. Alors, maintenant, je veux savoir comment je fais des crêpes. On m'a dit qu'il fallait utiliser uniquement des ingrédients à température ambiante, Bertrand Larcher. C'est vrai ou pas?
Oui, on aime bien travailler, oui. Tous les ingrédients, oui. On préfère avoir des œufs qui soient à température, effectivement, ambiante.
D'accord, ok. Ouais. Donc, ça veut dire que vous sortez les œufs du frigo quelques heures avant, puisque vous nous avez dit, Olivia, que c'était la façon dont il fallait les conserver. La bière?
Alors, la bière, moi, je la conseille plutôt...
Ce sont des Belges qui m'ont dit ça. Hein.
Oui, mais je pense que la bière, oui, on peut l'ajouter peut-être pour alléger la pâte, hein, juste avant la cuisson.
D'accord, ok.
On peut aussi remplacer la bière par, pourquoi pas, de l'eau de vie, de cidre.
D'accord, à consommer avec modération.
Voilà.
D'accord. Comment est-ce que j'évite les grumeaux dans la pâte? Là, je vous pose des questions très perso, mais je pense que je partage avec beaucoup d'auditeurs.
Ouais, je pense qu'il est important de bien respecter le sens de l'utilisation des matières premières. On commence toujours par les œufs, ensuite le sucre. Donc là, c'est important de bien fouetter énergiquement donc ce mélange.
Avec une fourchette ou avec un fouet?
Avec un fouet. Nous, on travaille toujours nos pâtes à la main, très important, parce que on utilise des farines très fragiles. Ensuite, on y ajoute le lait et après la farine.
Et c'est la meilleure façon de ne pas, pas avoir de grumeaux.
Et quand on ajoute la farine tout doucement à la fin, il n'y a pas de grumeaux.
On dit toujours qu'il faut laisser reposer la pâte à crêpes. Alors moi, pardon, mais quand je fais des crêpes, je fais ma pâte et allez, en avant Guingamp.
Non, mais moi je pense que c'est intéressant de laisser reposer la pâte si vous voulez ajouter des zestes d'orange, d'agrumes. C'est peut-être mieux de laisser infuser une heure, deux heures au frigo.
Ok, si je veux parfumer ma pâte, mais si je veux une pâte lambda,
il n'y a pas la nécessité de la laisser au frigo avant la cuisson.
On la fait toujours reposer au frigo ou on peut la faire reposer
alors,
à température
ambiante? Là, on parle de crêpe de froment, crêpe dessert. Ouais. Alors, par contre, la galette au sarrasin, la crêpe de blé noir, il faut laisser reposer 24 heures. C'est très important. La pâte au frigo et ensuite avant de la cuire, donc on va délayer la pâte deux heures avant la cuisson à température ambiante.
Alors il faut déjà réussir la première et puis après on essaye de les empiler dans l'assiette à côté. On les fait au beurre?
Alors nous on utilise beaucoup de beurre de micelle.
Ok. Dans une poêle à crêpes, pas n'importe quelle poêle j'imagine.
Dans
il faut
une
avoir
poêle
le
à crêpes, alors il faut toujours qu'elle soit bien chaude, que ça fume.
Ouais.
C'est très important de bien saisir. Alors, quand on a un petit souci à la cuisson, on peut ajouter aussi un petit peu de beurre fondu dans la pâte. Ça permet de mieux décoller la pâte.
D'accord,
voilà,
très bien.
Un peu de matière grasse.
Je mets à feu vif ou à feu...
Toujours à feu vif.
Donc, feu vif, du beurre de micelle dans une poêle.
Oui.
Ok. Donc, je prends une louche.
Oui.
La quantité, comment j'arrive à définir la quantité pour réussir ma crêpe?
Alors, la quantité, il faut à peu près 15 centilitres de pâte. Mais ce qui est important, c'est de recouvrir vraiment le fond de la poêle.
Voilà.
Et ça cuit très vite. Hein. On voit tout de suite la cuisson. Cuisson de crêpes, c'est à peu près une minute.
D'accord.
Aller-retour. Okay. Hein.
Donc je vois que ça commence à cuire et que la pâte est saisie.
On voit les bords qui commencent à devenir bruns. Et puis là, c'est le moment de la faire sauter ou de la tourner avec une spatule.
Voilà. Alors ça, c'est encore une autre histoire, la faire sauter. Donc on prend une spatule, il y a des spatules à crêpes, on la glisse. Et normalement, une bonne pâte à crêpes se décolle facilement.
Tout à fait.
Donc quand ça reste collé au fond de la poêle, qu'est-ce qui s'est passé?
Peut-être qu'on n'a pas mis assez de beurre. Alors on peut aussi remplacer le beurre par de l'huile de pépins de raisin. Voilà, donc il faut de la matière grasse.
C'est ça.
Mais je pense que s'il y a vraiment un souci, vous ajoutez un peu de beurre fondu dans votre pâte.
Alors maintenant que j'ai, je dirais, ma base technique, allons-y dans les recettes. Vous êtes venu avec une recette de galettes écrasées de carottes, cumin, coriandre et crevettes de Saint-Malo, évidemment.
Alors, on peut utiliser effectivement des langoustines de chez nous, de Bretagne, mais on peut utiliser aussi des crevettes de Madagascar biologiques, qui sont très bonne qualité. Alors, on travaille des carottes de sable chez nous, c'est l'une des spécialités. Voilà, c'est vraiment des produits de saison pour l'hiver.
Alors, comment je fais, disons, qu'est-ce qu'elle est belle dans votre livre, cette galette. Allons-y.
On cuit les galettes, bien sûr, dans de l'eau bouillante, légèrement salée. Après la cuisson, on va mélanger, on va écraser donc ces carottes à la fourchette. On va ajouter du beurre, de la crème, du coriandre et du cumin. Ensuite, on va donc étaler la galette dans notre poêle. On va donc ajouter cette purée de carottes. On va bien fermer les rebords de la galette. On la replie. Et ensuite, on va cuire donc nos crevettes ou nos langoustines dans du beurre demi-sel. Bordier, c'est le meilleur.
Tant qu'à faire.
À Saint-Malo. Et donc, on va poser délicatement nos crevettes, nos langoustines sur la galette. Voilà. Et on va aussi ajouter une petite sauce qu'on va préparer avec de l'orange et beurre et cidre. On va donc mélanger le jus d'orange avec le beurre en pommade. On va donc mettre ce mélange sur le feu et on va réduire donc ce mélange et après ajouter le beurre pour lier donc cette sauce. Et on va délicatement ajouter cette sauce sur la crêpe, sur la galette.
Bon, et vous avez vu l'heure? On approche de 10 heures et j'ai envie de manger, moi. Comment on fait maintenant? Merci beaucoup Bertrand Larcher pour cette recette.
Des bisous.
Merci beaucoup Bertrand Larcher d'avoir accepté notre invitation ce samedi matin. Je rappelle donc que vous êtes fondateur des crêperies Braise Café, que l'on retrouve à Saint-Malo, à Cancale, à Paris aussi.
Oui.
À Tokyo.
Et nous avons aussi
et
une école.
Et à Kyoto. Voilà. Exactement. Et votre école, vous donnez des cours justement pour faire des crêpes.
Oui, on donne des cours pour les particuliers. Et puis on essaye aussi de donner envie à des jeunes d'exercer ce métier.
Comment elle s'appelle votre école?
Atelier de la crêpe.
Atelier de la crêpe, comme le livre que vous retrouvez chez Hachette Cuisine avec plein de recettes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Laurence Plumet. À la prochaine, Laurence. Le grand livre de l'alimentation, comment maigrir heureux quand on n'aime ni le sport ni les légumes, aux éditions Erol. Merci Laurence. Olivia Delaunay, merci d'avoir accepté notre invitation. Grâce à vous, maintenant, on sait que les œufs vont au frigo et qu'il faut guetter le 0 et le FR sur la coquille. On vous retrouve également au magazine Maxi, où vous êtes rédactrice en chef du pôle cuisine. Merci à vous, Olivia. Si vous n'avez pas tout retenu de cette émission, rendez-vous sur le replay sur RTL.fr et sur nos réseaux sociaux pour les recettes. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous donne rendez-vous lundi à 14h30. C'est notre nouvel horaire sur RTL pour En effet pour s'entendre, votre magazine du partage et de la réflexion. Et puis la semaine prochaine, bien sûr, dans Nous voilà bien, vous saurez comment choisir le bon forfait pour votre mobile. Vous découvrirez sur le micro-ondes des dangereux pour votre santé et vous continuerez d'apprendre les premiers gestes d'urgence à pratiquer en cas d'accident domestique avec Yann Gillard, notre super sapeur-pompier. D'ici là, passez un très bon week-end. Bonne chandeleur à l'écoute d'RTL. Je vous embrasse.